L'émission littérature Radio Campus Orléans, nous sommes en direct au téléphone avec Bruno Latour pour parler de Cogitamus aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Bruno Latour d'être avec nous au téléphone.
Merci.
Alors le titre de votre livre Cogitamus annonce le programme de votre réflexion sur les humanités scientifiques. Vous partez de cette contradiction entre le moment où Descartes élabore le cogito et l'époque à laquelle il vivait, où se mettait en place déjà à cette époque une communauté scientifique européenne. Vous écrivez « La contradiction est trop forte, cogito ou cogitamus, il faut choisir ». Et vous faites de cette différence le point essentiel d'une double histoire qui s'écrirait là. Votre réflexion est-elle donc d'écrire l'histoire du cogitamus ou l'histoire ratée du cogitamus ?
Oui, je ne suis pas du tout le seul, et en plus je ne suis pas vraiment un historien, mais j'utilise dans ce livre qui est le résultat d'un cours que je fais en première année à Sciences Po depuis plusieurs années, toute une littérature très importante développée par les vrais historiens des sciences, dont beaucoup sont étrangers, mais aussi beaucoup sont français, et qui a profondément révolutionné la façon dont on aborde la question des sciences. Et donc cette opposition un peu latine entre cogito et cogitamus est un drapeau en quelque sorte pour signaler la transformation complète qui s'est opérée. Donc il ne s'agit pas évidemment d'une critique philosophique du cogito qui a été faite par beaucoup de gens très éminents, mais de rappeler le paradoxe qui fait qu'à chaque époque où les sciences se développent, apparaît un mouvement philosophique qui, en quelque sorte, en dénie le caractère matériel, le caractère collectif, le caractère social, le caractère politique et je dirais presque le caractère cosmique. Donc c'est une façon de résumer toute une immense transformation. Je reconnais un peu rapidement, mais c'est le but d'un cours.
Alors, cette différence entre cogito et cogitamus, vous en faites un élément clé, un fil conducteur de ce livre.
On va le retrouver ensuite. C'est toute une ligne, si vous voulez. Quand ensuite on a la première grande révolution industrielle, on a la philosophie kantienne, avec un autre cogito d'ailleurs, un autre je pense. Et quand on va avoir la quatrième ou la cinquième révolution industrielle, on va avoir la philosophie analytique, qui va de nouveau essayer d'imaginer un je pense complètement à côté de l'ampleur de ce qui se passe dans la communauté académique qui, elle, s'étend, s'organise, est liée à l'industrie, est liée à l'armée, est liée à toute une série de pratiques. Et donc il y a une espèce de paradoxe à imaginer une histoire des sciences philosophiques qui est tout à fait fantasmatique, au moment même où de révolution industrielle en révolution industrielle, les sciences se lient à toutes les autres activités et surtout au reste de la culture. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que j'utilise l'expression d'humanité scientifique.
Alors, vous allez quand même plus loin sur cette distinction. Je vous cite à un moment donné, vous dites « Tout se passe comme si les deux récits inversaient le rapport du premier plan et du deuxième plan. Dans le récit Cogitamus, ce sont les laboratoires qui apparaissent au premier plan avec tous leurs détours et compositions, leur cosmogramme bigarré, c'est la res extensa qui apparaît comme une continuité artificielle, idéaliste, presque superflue, alors que dans le récit Cogito, c'est la matière d'un univers infini qui apparaît au premier plan avec ses longues et ainsi de suite, et vous en arrivez à ce résultat, tout se passe comme si le monde avait bifurqué entre deux types de réalités absolument incompatibles.
Oui, le monde...
Vous allez vraiment beaucoup plus loin, c'est à ce point. Tout se passe comme si le monde avait bifurqué entre deux types de réalités absolument incompatibles.
Disons, le mot de bifurcation, c'est le terme qu'utilise le grand philosophe Whitehead, Alfred North Whitehead, pour dire qu'effectivement, au XVIIe siècle, il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de la bifurcation de la nature et qui a entraîné une distinction qui a joué beaucoup de rôle après entre, disons, la res cogitans et la res extensa, pour reprendre les termes de Descartes, mais plus largement entre les qualités premières, comme disent les philosophes, et les qualités secondes. C'est-à-dire d'un côté un monde fait d'une réalité matérielle mais invisible et sans dimension esthétique, sans dimension éthique, etc. Et de l'autre des valeurs malheureusement subjectives et sans accès à la réalité matérielle. Donc cette division, évidemment, elle n'a jamais existé, personne ne l'a jamais fait vivre, mais elle a existé en philosophie. Donc elle est ce qui a bifurqué, c'est pas le monde, naturellement le monde on n'a jamais pu distinguer les qualités premières et les qualités secondes en pratique, et les sciences ont toujours été mêlées à tout. comme je l'ai dit déjà, mais l'idée qu'on se fait des sciences, le grand récit à l'intérieur duquel on installe l'histoire des révolutions scientifiques, c'est une histoire dans laquelle la bifurcation, en quelque sorte, organise toute la distinction qu'on retrouve encore maintenant entre les campus où il y a les scientifiques qui s'occupent des objets matériels, dit-on, et de l'autre côté, les campus où on s'occupe des humanités, du droit, etc. Donc ça, c'est aussi une conséquence d'organisation de l'espace académique.
Pour continuer sur cette distinction, vous écrivez que le pari des humanités scientifiques, c'est du cogito, rien ne peut se déduire, pas même que j'existe, mais du cogitamus, tout peut se déduire. Nous pensons, donc nous sommes embarqués en commun dans un monde à composer. C'est ce que je dis à mes étudiants, je vous cite, c'est ce que je dis à mes étudiants, pour les encourager, les choses vont redevenir vraiment intéressantes. Donc à partir de cette distinction, vous dites, les choses vont redevenir vraiment intéressantes. Redevenir, mais pourquoi redevenir?
Parce que, disons, la séparation que la bifurcation avait établie avec la distinction entre, disons, humanité et littéraire d'un côté et scientifique de l'autre ne présente aucune espèce d'intérêt, surtout elle ne présente aucune prise sur le monde. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que tout le monde, depuis 3 siècles, déplore la distinction entre la culture scientifique et le reste de la culture, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. C'était au fond un regret tardif après dîner quand les scientifiques se réunissent et qui parlent de cinéma ou quand les gens du cinéma ou des lettres se réunissent et qui parlent de science. Ça n'avait pas d'importance. Tandis que maintenant, ça a une grande importance à cause des crises écologiques. Donc brusquement, avec l'énorme impact des crises écologiques, on se dit là, c'est plus du tout une question simplement d'ouverture d'esprit, d'interdisciplinarité, de culture générale pour l'homme ou la femme bien née, mais ça devient une question vitale. Et cette question vitale, elle s'est manifestée évidemment par la transformation très profonde de la conception de la nature. Et là, on se dit, bon, ben, il n'est plus question de séparer comme on le faisait autrefois. Les qualités premières et les qualités secondes. La question climatique, par exemple, elle appartient exactement autant aux sciences politiques qu'aux sciences climatologiques. Donc, c'est plus la peine d'organiser le monde sous le mode de la distinction entre qualité première et qualité seconde. C'est ça que je veux dire.
Je voudrais terminer sur cette question avec quelque chose d'assez choc que vous avez écrit sur cette histoire et cette différence d'histoire. Vous écrivez donc vraiment beaucoup plus loin, en vous adressant à vos étudiants. J'espère vous faire voir plus tard que, en nous permettant d'hériter d'un autre passé, nous allons peut-être pouvoir imaginer un autre avenir. Vous tressez des fils de cette distinction cogito-cogitamus. Et de cet historique passé, vous dites pouvoir imaginer un autre avenir. Ça, c'est l'enjeu de vos recherches, de vos travaux. C'est pour moi la phrase clé de votre recherche générale et de l'excitation que procurent vos travaux. C'est le mélange de
C'est-à-dire
passé et de aller vers l'avenir.
que c'est pas la même chose d'avoir d'hériter d'un passé qui est celui des révolutions scientifiques qui nous aurait projeté, nous pauvres humains, dans un monde qui n'aurait plus aucun rapport quelconque avec la réalité humaine et les réalités morales. C'est-à-dire c'est le grand récit classique de la révolution scientifique. On est passé d'un cosmos antique, certes très agréable, mais faux, à l'univers infini dans lequel on aurait été plongé depuis Descartes, ces espaces infinis qui sont supposés nous effrayer depuis Pascal. Donc voilà, c'était le monde dans lequel on était, c'est celui dont on héritait. C'est encore, je ne sais pas si vous êtes ma génération, mais le grand livre de Monod, Le hasard et la nécessité, l'espèce de désespoir admirable avec lequel les scientifiques reconnaissent que le monde n'a aucun sens, mais que par une espèce de grande ascèse, on s'aperçoit que ce monde n'a aucun sens, mais que nous sommes là-dedans néanmoins capables de le connaître. En fait, toutes ces espèces de piété, au fond, faussement matérialiste, a servi énormément à organiser un discours sur le passé et évidemment aussi un discours sur l'avenir. L'avenir était l'accroissement du désenchantement progressif que cette avancée formidable du désespoir scientifique allait permettre. Je crois qu'il n'y a plus un scientifique qui croit ça maintenant, puisque au contraire, on s'aperçoit que plus les sciences avancent, plus elles se lient, elles s'attachent à une multitude de liens qui sont ceux de la politique, de la culture, de l'instrumentation, de l'industrie, de la finance, etc. Ça, c'est vrai du passé. C'est la révolution qui a eu lieu en... Enfin, révolution n'est pas le mot à utiliser, en l'occurrence. La transformation très profonde des nouvelles histoires des sciences. Galilée était lié à toute une culture. Il n'est pas du tout passé du cosmos à l'univers. C'est la même chose avec Newton, naturellement. C'est la même chose avec Pasteur. C'est la même chose avec Einstein. Enfin, chaque histoire de ces personnages qui étaient supposés nous faire basculer du cosmos à l'univers a été révisée de fond en comble. Et donc, on n'a plus du tout le même passé. Et c'est le point que j'avais fait dans « Nous n'avons jamais été modernes ». Une grande partie de la définition de la modernité dépendait de cette histoire des sciences. Si vous modifiez l'histoire des sciences, on change le passé. Et donc on change aussi, évidemment, l'avenir. Notre avenir n'est pas celui d'une émancipation de plus en plus grande des attaches du passé. On a maintenant un avenir qui est celui de cohabitation possible et peut-être de survie. Et ce qui n'a plus du tout le même aspect et surtout la même métaphysique que celle qui était inspirée par l'histoire des sciences que nous avons connue enfant. C'est ça que je veux dire.
Oui, c'est choc cette phrase. On n'a plus du tout le même passé. Vous avez parlé de Galilée. Vous en faites un développement de plusieurs pages de Galilée, quelque chose qui m'a assez stupéfié. Vous insistez à un moment donné que la grande question est bien de savoir si nous sommes les héritiers de la révolution scientifique ou si nous avons hérité d'une autre histoire infiniment plus compliquée. Et votre exemple pour expliquer ça est assez révélateur. C'est une page du, enfin vous dites journal de bord, une page d'un manuscrit de Galilée. Et dans cette page, vous dites qu'il n'y a que un dessin de la Lune qui est réutilisé par l'histoire, alors que juste en bas de la même page, il y a un dessin qui est un horoscope, en fait, une esquisse d'horoscope.
Oui, qui est un horoscope, pas n'importe lequel, mais celui pour son sponsor, on dirait aujourd'hui, Cosimo de Médicis. Bah, c'est encore une fois un drapeau pour résumer à des élèves de première année. Un immense domaine d'études, les études galiléennes se sont profondément transformées depuis Coiré. Et on voit très bien, ça c'est un exemple typique, parce qu'il se trouve que cette page a été souvent citée tout au long du 19e siècle et qu'on ne retenait que le haut, c'est-à-dire le fait que, évidemment, c'est une grande découverte de Galilée, et ça c'est indéniable, qu'il a pu observer la Lune, d'ailleurs grâce à sa connaissance très précise du dessin en perspective, c'est un point aussi intéressant, du lien entre art et culture, à travers une lunette... qu'il a transformé en lunettes astronomiques qui étaient de très mauvaise qualité, mais qui lui a permis de faire cette grande découverte des cratères de la Lune. Mais en dessous, au même moment, le même jour, le même soir, en tout cas sur la même page, il était en train de dessiner l'horoscope de son sponsor. Donc on peut dire, voilà, il est passé normal parce qu'il est partagé entre une vision moderne qui le met en rapport avec l'univers, ou bien encore attaché et aux chaînes, en quelque sorte, d'un passé archaïque qui fait des horoscopes. Donc il est un peu moderne et un peu archaïque. C'est d'habitude comme ça qu'on classe cette page en faisant une espèce de séparation entre les deux, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que les gens ne sont pas schizophrènes. Ils n'ont pas partagé entre modernité et archaïsme. Ils sont en train de construire des cosmos, des arrangements de monde avec des définitions de la physique, des définitions de Dieu, des définitions de l'influence des étoiles, mais aussi des définitions de qu'est-ce que c'est que d'obtenir de l'argent quand on n'en a pas et qu'on est obligé de gagner sa vie alors qu'il n'y a pas encore de monde scientifique autonome, etc. etc. Je veux dire, c'est une façon d'illustrer le passage. De nouveau, cogitamus n'a pas les mêmes exigences que cogito. Le passage d'un cosmos à un autre cosmos, ou d'un, comme je dis, une cosmologie à une autre cosmologie, et pas du cosmos à un univers. C'est un peu l'opposition que j'essaye de faire de façon encore une fois très grossière dans ce livre.
Et donc pour terminer avec ces histoires historiques, on va dire, à un moment donné, vous dites que, mais plusieurs fois, vous le dites qu'on ne doit pas se mettre d'accord sur leur histoire, sur l'histoire des sciences, qu'il y a des polémiques. Au moins trois fois, j'ai trouvé ça, que vous prévenez votre étudiante à qui vous écrivez, qu'on ne devait pas se mettre d'accord sur leur histoire.
Oui, parce que le, tout ce que je dis là, c'est une façon qui peut choquer et qui ne doit pas choquer les gens à formation scientifique. Donc, il n'y a pas à se mettre d'accord sur cette histoire. Il y a à reconnaître qu'il y a deux histoires. Une histoire dans laquelle on raconte l'émancipation progressive de l'activité, des connaissances, de la nature, de toute connexion avec le reste de la culture et de la politique. Donc ça, c'est la version cogito. Descartes, seul dans son poêle, refait le monde à partir d'un point. Et une version explique la même situation. Descartes en Hollande avec l'ensemble de son cosmos, où au contraire il s'agit de multiplier les attaches entre les sciences et le reste de la culture. Ça, c'est la version cogitamus. Et on peut pas se mettre vraiment d'accord dessus parce que l'accord supposerait qu'on oublie probablement dans un cas une des valeurs très importantes de l'activité scientifique. Donc je rappelle à mon étudiant qui me sert à faire ses lettres, que je lui adresse, puisqu'elle rate souvent mon cours, c'est le thème du livre, qu'elle ne peut pas espérer obtenir un enthousiasme immense pour l'une des versions pour l'autre. Et il se trouve que deux choses intéressantes, ce petit domaine de l'histoire des sciences, qui était tout à fait marginal, du moins dans l'ensemble de la culture, avec les polémiques sur l'écologie et les polémiques sur la nature, se trouve au centre, au fond, comme on l'a vu dans la fausse critique, la fausse controverse sur le réchauffement climatique, au cœur de débats beaucoup plus larges. Donc, c'est important aussi de se rappeler qu'il ne faut pas se mettre trop vite d'accord sur une version ou sur l'autre de cette histoire.
Alors, on va revenir à cette phrase clé pour moi que je vous cite, les choses vont redevenir vraiment, vraiment intéressantes. Et là, on en vient à
C'est le mot
votre.
chose qui est important, les choses.
Oui, les choses, effectivement, c'est ça qui est les choses. Et là, avec ces choses, on en vient directement à l'objet de votre recherche. Et ma question, c'est est-ce que vous avez choisi cet objet de recherche vaste au fil des années? Parce qu'il offre des perspectives vers le futur très excitantes. Un étonnement et un intérêt face aux nouvelles techniques, face aux découvertes scientifiques qui est toujours renouvelé. En gros, vous ne cesserez jamais d'être excité par votre recherche qui est tournée souvent également vers le futur.
Oui, enfin, je dirais plutôt vers l'avenir. J'essaie d'opposer
Oui, vers l'avenir,
le
oui.
futur et l'avenir. Mais enfin, ça, c'est un point un peu obscur. Mais le futur, c'est précisément ce qu'on avait quand on était moderne. Je pense qu'il faut maintenant essayer de faire une distinction entre le futur qui était au fond une utopie moderne, un futurisme au fond, et quelque chose d'assez différent qui est l'avenir et qui est plutôt celui dans lequel on se trouve maintenant. C'est-à-dire quelqu'un vient à vous. Qui est très 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 différent de ce qu'on imaginait du temps où on avait un futur. C'est lié à toutes ces transformations très profondes qui fait qu'on est obligé de basculer d'idéaux qu'on appelait révolutionnaires dans la version moderniste à quelque chose de beaucoup plus bizarre, qui est la situation dans laquelle on rentre maintenant, qui est un avenir de cohabitation, de précaution, d'attention, de composition qui est tout à fait différent, qui a une tonalité très profondément différente. De ce qu'était le futur. Et au milieu de ça, il y a les choses au sens de cette philosophie des matériels que nous essayons de développer, tous autant que nous sommes dans le domaine des science studies, qui n'est pas du tout l'objet cartésien de la res extensa jeté dans son monde des qualités premières, mais au contraire, ce que j'appelle en anglais, malheureusement, je n'ai pas de terme bien adapté en français, matters of concern et non pas matters of fact. C'est matters of concern, c'est soucis, c'est pas que les termes, c'est affaires, c'est sujets de préoccupation. C'est la nouvelle forme dans laquelle les êtres qui étaient avant les êtres de la nature ou les objets des sciences se présentent à nous dans l'avenir, que ce soit les poissons, que ce soit le climat, naturellement, que ce soit l'ensemble des êtres, des virus, des technologies, etc. Et donc, quand je dis que ça redevient intéressant, c'est vraiment les choses qui redeviennent intéressantes. Elles étaient banalisées et abêties par la définition classique d'être simplement des objets regardés par un sujet, qui est quand même le truc le plus niais et le moins intéressant qui soit. Si on pense à toute le temps qu'on a passé à essayer de réconcilier le sujet et l'objet, ce qui est vraiment pas très intéressant, alors que les choses, au sens de matters of concern, se présentent à nous d'une façon qui oblige, en quelque sorte, à redevenir intelligent.
Est-ce que c'est pour ça, du coup, que vous aimez les laboratoires? Je vous cite dans Cogitamus un passage qui m'a étonné aussi, parce que vous y mettez beaucoup de sentiments. Vous écrivez « J'aime les laboratoires. Je vous jure que j'ai le cœur qui palpite vraiment quand j'entre, même une minute, dans un laboratoire de quelque discipline que ce soit. Il n'y a rien de plus passionnant, rien de plus émouvant. Je vibre, je comprends, j'admire, je connais. Il est vrai que c'est là que j'ai fait mes premières armes, non pas comme praticien, mais comme ethnologue, et que c'est là que j'ai appris à aimer les sciences. À ma manière, certes, mais d'amour vraiment. Oui, je crois que je comprends ce que c'est que la libido sciendi. Je me sens à chaque fois comme Archimède poussé à sortir nu de ma baignoire en m'écriant « Eureka, donnez-moi un laboratoire et je soulèverai le monde ». C'est ça votre intérêt pour le laboratoire?
Pardon?
Et du coup, c'est ça qui vous... Le début de votre recherche sur les laboratoires, c'est ça qui vous a excité?
Bah, disons, j'ai commencé, oui, j'ai commencé, mais c'est pas simplement par nostalgie, c'est aussi parce que, de nouveau, ce qui commençait comme un domaine extrêmement ésotérique et tout à fait marginal de la sociologie, c'est-à-dire la sociologie des sciences et des laboratoires plus particulièrement que j'ai contribué à établir, se trouve de nouveau au centre de grandes questions de civilisation. C'est quand même assez excitant pour un chercheur, 35 ans après, des objets complètement marginaux dans une étude de sciences sociales qui deviennent centraux. Si vous pensez maintenant aux questions de rendre visibles les laboratoires dans lesquels se constituent les sciences du climat, par exemple, c'est quand même assez formidable de pouvoir, par cette entrée-là, qui était quand même très, très petite et très étroite, pénétrer dans des questions de géopolitique d'assez bonne taille. Donc c'est des questions qui m'ont excité, mais comme elles ont excité Michel Serre, comme elles excitent un peu tous les gens qui sont dans cette mouvance de ce qu'on peut appeler l'anthropologie des sciences.
Alors, ce livre-là, Cogitamus, c'est avant tout cette question-là, des savoirs techniques et scientifiques qui doivent être mélangés, associés à la discipline historique, et ils ne doivent pas être dissociés de l'histoire et de la politique. Et là, on arrive au cœur de votre projet, qui est cette question-là, qu'est-ce que seraient des institutions capables de rendre une vie politique digne de la démocratie en y incluant les sciences? Et là, vous donnez un exemple, c'est le GIEC. Le GIEC sur le climat, qui a été prix Nobel de la paix 2007. Ça fait plusieurs fois que vous en parlez dans cette interview. C'est aussi un exemple qui traverse votre livre Cogitamus.
Ben, c'est un bon cas parce que c'est un cas de bonne dimension, encore une fois, dans lequel on voit bien qu'on n'a pas, l'échec de Copenhague de 2009 le montre assez, on n'a pas l'institution qui correspond à la taille et à l'organisation d'un problème aussi massif que celui... Du climat et surtout qu'il faut arriver à intégrer l'institution scientifique dedans. Donc j'enseigne à Sciences Po les humanités scientifiques. Vous imaginez que il y a quelques années les élèves de Sciences Po n'auraient pas eu à s'occuper de climatologie. En maintenant on y fait des cours de climatologie parce que c'est essentiel à la politique. Voilà, c'est des problèmes extrêmement simples hein, que j'essaye de résoudre. Simples, ils sont pas simples à résoudre, mais on voit bien pourquoi le problème est essentiel. Simplement, il est vrai qu'on n'a pas les institutions correspondantes et la querelle absurde qui a été faite aux scientifiques par Claude Allègre et les autres a montré à quel point nous étions mal équipés pour résister et pour découvrir les institutions qui permettent de respecter l'institution scientifique. Et pourquoi? Parce que l'institution scientifique n'est pas elle-même rendue visible, chérie, protégée, etc. On parle à peine d'institutions scientifiques même. Or, l'institution scientifique est nécessaire à la production, à la sauvegarde, à l'archivage, au respect des faits. Et c'est donc ceux qui montrent cette institution scientifique, de nouveau Cogitamus, et pas Cogito. Dans Cogito, il n'y a pas d'institution du tout, il y a juste moi, je pense. Dans Cogitamus, il y a nous pensons et nous avons besoin d'institutions, nous avons besoin d'instruments, nous avons besoin de financement, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de contacts avec tout un monde. C'est l'ensemble de ce monde-là qu'il faut respecter. Et donc on voit très bien dans un cas particulier comme celui du GIEC, mais qui est très 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 important du point de vue de l'avenir justement, à quel point si nous avions eu une version positive de l'institution scientifique, nous n'aurions pas été traînés dans cette absurde polémique. Les scientifiques, en tout cas, n'auraient pas été traînés dans cette absurde polémique sur le doute, qui est maintenant malheureusement répandu auprès de tout le monde, enfin beaucoup de gens, par ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Donc, c'est l'institution scientifique qu'il faut arriver à rendre visible et à respecter. Et ça, c'est pas très facile, je le reconnais.
Pour revenir à quelque chose de plus théorique, vous dites, il n'y a pas d'autonomie des savoirs à respecter face aux politiques.
Ça, c'est un point polémique aussi et compliqué. C'est que c'est pas l'autonomie qu'il faut défendre, même si l'autonomie doit être défendue, mais défendre l'autonomie des questions qu'on se pose, ça, c'est une version générale de la démocratie. Ça s'applique pas qu'aux scientifiques, ça s'applique aussi à l'homme du commun. Chacun a le droit de défendre l'autonomie des questions qu'il pose, le droit à poser ces questions. Ça, c'est une chose. Mais je ne crois pas qu'on puisse, au contraire, défendre, enfin résoudre la question. Des rapports entre sciences et politique en les séparant. Non, ça je ne crois pas. Je pense que ça a toujours raté, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été solide. C'est une question polémique, hein. Je discute souvent avec des scientifiques là-dessus, on a de la peine à se mettre d'accord. C'est une question polémique. De nouveau, il ne faut pas se mettre d'accord trop vite sur cette affaire, qui est en gros la question de l'autonomie, la question du respect de l'expertise. Enfin, c'est toute une espèce de. Tout un ensemble de choses assez complexes. Mais je crois qu'il faut essayer d'explorer des voies nouvelles et pas simplement la séparation possible entre science et politique. Ça c'est précisément ce qui a en quelque sorte rendu impossible le respect de l'institution scientifique.
Pour ma dernière question, je vais prendre l'exemple que vous prenez de la navette spatiale Columbia dans votre sixième et dernière lettre de cogitamus à cette étudiante. Et donc ça reprend un peu le début de mes questions sur le cogito. Donc on va terminer avec le cogito et Descartes. Vous écrivez que quand Descartes parle de l'animal-machine, il maltraite l'animal, bien sûr, mais il maltraite aussi les machines. Et là, vous prenez un exemple, c'est la navette spatiale Columbia, donc c'est celle qui se désintégrera à son retour sur Terre. Et vous écrivez, je vous cite assez longuement, mais bien évidemment, il s'agit là d'une illusion rétrospective, car les navettes qui ne subissent aucun accident et qui retournent sur Terre en toute sécurité, elles aussi sont de fragiles assemblages socio-techniques. Elles aussi voyagent à travers leur institution. Elles aussi ne sont des assemblages solides que parce qu'elles sont des assemblées fragiles. Vous voyez le problème? Où? Dans quel espace Descartes rangerait-il une navette spatiale circulant avec sa NASA dans le ciel? Ça, c'est une question qui m'a une phrase qui pour moi m'a semblé d'une étrangeté incroyable, mais qui a résonné longtemps. C'est où, dans quel espace Descartes rangerait-il une navette spatiale circulant avec sa NASA dans le ciel? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour terminer l'interview?
Bah, disons que sur les sciences, la philosophie ordinaire est d'une extraordinaire pauvreté, surtout d'une pauvreté empirique très grande. Mais alors sur les techniques, on est à l'âge de pierre en quelque sorte. Les techniques sont absolument hors de toute interprétation intelligente par les philosophes et par les lettrés en général. Et donc je pose un problème d'une simplicité extrême et qui est le résultat, encore une fois, de tout un immense domaine des Science and Technology Studies dans lequel je suis, c'est que rien n'est plus intensément social que les techniques, et que donc une navette sans la NASA ou un Boeing 747 sans une compagnie aérienne, ça n'a pas d'existence non plus. De nouveau, cogitamus et non pas cogito, ça ne circule pas tout seul, autonomement, de façon autonome, dans un espace qui serait celui de la res extensa. Tout ça, ce sont des choses assez évidentes pour les gens de mon domaine, mais qui n'arrive pas à s'enregistrer dans la conscience publique à cause de l'idée qu'on se fait avec la technique, de nouveau à cause de l'idée qu'on se fait des lettres. La technique, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui est froid, c'est ce qui est neutre, c'est ce qui est autonome, c'est ce qui est automatique, etc., etc. Alors qu'il n'y a rien de plus, au contraire, connecté, de rien de plus social, de rien de plus lié au reste de la culture que nos technologies. Donc c'est un assez beau cas, la technologie est un assez beau cas de l'impossibilité de la res extensa telle que le définit Descartes. Encore, je prends ce pauvre Descartes, c'est très injuste, c'est pour simplifier, hein. Tout ça, c'est pour essayer de mettre en place un certain nombre d'éléments de réflexion dans un sujet, les sciences et les techniques, qui reste complètement irréfléchi et où les gens continuent à ressasser des positions sur les sciences et les techniques qui n'avaient déjà aucun sens il y a 2 siècles. On est extraordinairement en retard sur toutes ces questions de sciences et de technologies.
Eh bien, merci beaucoup Bruno Latour d'avoir accepté cet entretien en direct et par téléphone. Merci beaucoup à vous.